Matière à penser,
une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos
avec Fabrice Adjadj
et Galdric Drapé.
Aujourd'hui, 35e épisode de notre seconde saison sur les pères fondateurs de la pensée occidentale avec Blaise Pascal et la question: n'y a-t-il aucune commune mesure entre la chair, l'esprit et la charité? Pascal est un penseur de la pluralité, sinon de la fragmentation du monde. Sa grande œuvre est elle-même composée de fragments. Il y oppose le cœur et la raison, l'esprit de géométrie et l'esprit de finesse, le dieu des philosophes et le dieu d'Abraham, dieu d'Isaac, dieu de Jacob. Cette pluralité apparaît spécialement de sa thèse sur les trois ordres de grandeur. Il y a la grandeur dans l'ordre des corps, la grandeur dans l'ordre des esprits et la grandeur dans l'ordre de la charité, lesquelles peuvent ne pas communiquer entre elles. Un grand roi peut ne rien comprendre à la grandeur d'un ouvrage de science ou d'une grande œuvre d'art. Un grand artiste ou un grand intellectuel peuvent ignorer la grandeur d'un acte de charité. Ainsi, on peut s'élever toujours plus haut en restant toujours très en dessous d'un univers qui nous échappe. Mais n'y a-t-il vraiment aucune communication de la chair à l'esprit et de l'esprit à la charité? Pascal nous fait entrevoir ici la possibilité d'un aveuglement, d'un verrouillage complet de la force et de l'intelligence, loin du mystère surnaturel de l'amour, mais un tel verrouillage n'interdit pas la réalité d'une porte entre ces ordres si différents. C'est ce que nous allons essayer de comprendre en relisant l'une des pages les plus décisives des pensées.
La distance infinie des corps aux esprits figure la distance infiniment plus infinie des esprits à la charité, car elle est surnaturelle. Tout l'éclat des grandeurs n'a point de lustre pour les gens qui sont dans les recherches de l'esprit. La grandeur des gens d'esprit est invisible aux rois, aux riches, aux capitaines, à tous ces grands de chair. La grandeur de la sagesse, qui n'est nulle sinon de Dieu, est invisible aux charnels et aux gens d'esprit. Ce sont trois ordres différents de genre. Les grands génies ont leur empire, leur éclat, leur grandeur, leur victoire et leur lustre, et n'ont nul besoin des grandeurs charnelles où elles n'ont pas de rapport. Ils sont vus, non des yeux, mais des esprits. C'est assez. Les saints ont leur empire, leur éclat, leur victoire, leur lustre, et n'ont nul besoin des grandeurs charnelles ou spirituelles, où elles n'ont nul rapport, car elles n'y ajoutent ni ôtent. Ils sont vus de Dieu et des anges, et non des corps ni des esprits curieux. Dieu leur suffit. Mais il y en a qui ne peuvent admirer que les grandeurs charnelles, comme s'il n'y en avait pas de spirituels. Et d'autres qui n'admirent que les spirituels, comme s'il n'y en avait pas d'infiniment plus hautes dans la sagesse. Tous les corps, le firmament, les étoiles, la terre et ses royaumes ne valent pas le moindre des esprits, car il connaît tout cela, et soi, et les corps, rien. Tous les corps ensemble, et tous les esprits ensemble, et toute leur production ne valent pas le moindre mouvement de charité. Cela est d'un ordre infiniment plus élevé. De tous les corps ensemble, on ne saurait en faire réussir une petite pensée. Cela est impossible et d'un autre ordre. De tous les corps et de tous les esprits, on n'en saurait tirer un mouvement de vraie charité. Cela est impossible et d'un ordre surnaturel.
Fabrice Adjadj, les saints ont leur empire, leur éclat, leur victoire, leur lustre, et n'ont nul besoin des grandeurs charnelles ou spirituelles. Quel est le contexte de ce texte?
Alors c'est un texte à la fois, grandiose et terrible, un texte formidable, avec cet adjectif avait aussi de sens, hein, de tremblement, de frayeur autrefois, parce que c'est un texte qui montre la fin de la grande synthèse, de la grande harmonie, on pourrait dire médiévale, où tout était dans tout. où tout participait à tout. La chair participe à l'esprit, l'esprit participe à Dieu, de telle sorte qu'on peut monter, comme dans le platonisme en fait, hein, de degré en degré, depuis la beauté des corps, on pourrait dire, jusqu'à la beauté des esprits et jusqu'à la beauté divine. Et là, tout d'un coup, vous voyez, cet ordre explose. On a l'impression qu'existe trois mondes parallèles. Alors, il y a une hiérarchie entre ces mondes, hein, bien sûr. Les corps sont en dessous de l'esprit, l'esprit en dessous de la charité surnaturelle. Mais en même temps, chacun a son autonomie, apparemment. De telle sorte qu'on ne passe pas, on ne peut des corps passer à l'esprit comme ça, automatiquement, naturellement, simplement. On ne peut de l'esprit passer à la sagesse divine. De telle sorte que les grandeurs mondaines, les grandeurs d'établissement, les grandeurs... parce que c'est ça quand il parle des corps, hein, c'est-à-dire ce qui est visible, ce qui nous impressionne. Donc ça n'est pas simplement la force physique, ça peut être ça. Ça peut être le courage d'un grand capitaine, ça peut être le faste d'une cour royale. Eh bien, cela nous impressionne, mais ne nous ouvre pas à la vérité, la grandeur d'un traité de philosophie ou d'un développement dans les sciences. Et de la même façon, on peut faire de la philosophie un très très haut degré de raffinement, d'intelligence, de rationalité, et cependant ne jamais même entrevoir voilà, ce que peut être la charité et la grandeur, alors j'aime beaucoup ça, infiniment plus infinie de la charité. Oui. Donc tout d'un coup, vous voyez, alors qu'on avait un monde avec des passerelles, avec des articulations, des corps aux esprits, des esprits à Dieu, là tout d'un coup on a trois mondes avec une distance infinie des corps à l'esprit et une distance infiniment plus infinie des esprits à la charité. Et puis l'autre point que je voudrais souligner pour éviter tout malentendu, c'est que c'est l'emploi du mot esprit ici. Parce que ici l'adjectif spirituel ne renvoie pas précisément à ce que nous appelons parfois la vie spirituelle, vous voyez, qui est précisément la vie dans la charité. Je crois que parler de la vie chrétienne comme d'une vie spirituelle, simplement, ou parler simplement d'esprit, c'est peut-être se fourvoyer. D'abord parce que le christianisme n'est pas un simple spiritualisme, c'est aussi une vie qui implique la chair, c'est une religion de l'incarnation, mais aussi parce qu'on peut être un pur esprit, sans aucune charité. C'est le cas de ce qu'on appelle les esprits impurs ou les démons. Et donc, on peut, dans ce sens, non seulement avoir de l'esprit, être un esprit, et passer à côté de l'Esprit Saint, qui ici a pour nom la charité. Voilà. Donc ça, c'est très fort. Hein, ici, il parle bien de grandeur charnelle ou spirituelle. Et donc, il y a des grandeurs spirituelles qui sont beaucoup plus grandes que les grandeurs charnelles, infiniment plus grandes déjà, mais... qui peuvent se fermer en elles-mêmes, former une sorte de clôture totale, imperméable, à cet autre ordre de grandeur, infiniment plus infini, encore une fois, qu'est celui de la sagesse divine, donc de la charité.
Fabrice Adjadj, s'il y a une incommensurabilité, on pourrait dire, entre ces ordres...
C'est ça, oui, incommensurabilité, c'est le bon mot.
Est-ce que ça veut dire que du supérieur d'un ordre, on ne peut pas passer à l'inférieur de l'autre? Ou est-ce que ça veut dire que si on est dans un ordre, on ne peut pas être dans les autres? Par exemple, est-ce que quelqu'un pourrait être éminemment intelligent, avoir un physique parfait et d'énormes richesses, et être parfaitement charitable?
Alors, ça c'est il faut bien voir ce que dit le texte de Pascal. Parce que ce qu'on pourrait penser, c'est que c'est incommensurable, complètement étanche, et même, on pourrait dire, dans des relations de contrariété. Plus on est dans les corps, moins on peut s'ouvrir à l'esprit, plus on est dans l'esprit, moins on est dans la charité, etc. et donc d'entrer dans quelque chose qui serait dangereux. C'est-à-dire, par exemple, l'idée que la philosophie devient forcément l'ennemi de la charité, ou que la beauté physique est forcément l'ennemi de la vie intellectuelle et de la charité aussi. Donc toutes ces choses-là, vous voyez, c'est, vous pensez que des choses en relation de contrariété, je pense que c'est pas ce que dit Pascal, parce qu'il dit « il y en a qui ne peuvent admirer que les grandeurs charnelles, comme s'il n'y en avait pas de vérité. » Il y en a. Ça ne veut pas dire que c'est systématique, ça ne veut pas dire que c'est automatique. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est, ce verrouillage possible fait qu'il n'y a plus aucune porte. Maintenant, c'est vrai qu'il montre ces possibilités de verrouillage. Ce qui est impossible d'une certaine façon à un penseur platonicien, qui est de dire, mais si tu rentres vraiment dans la chair, dans son mystère, tu vas aller vers l'esprit. Et puis si tu rentres vraiment dans l'esprit, tu vas aller vers Dieu. Mais voilà, cette idée d'un ordre simplement naturel, voilà, c'est ça ce que conteste Pascal. Il y a du surnaturel. Et donc à partir de la logique du surnaturel, la logique de l'événement, eh bien, le passage d'un ordre à un autre suppose un événement, suppose une conversion, suppose un truc qui n'est plus simplement de poursuivre sur la même ligne. Donc, il prend en considération le fait qu'il y a un événement biblique, il y a un événement de la révélation qui n'a pas la belle articulation de l'ordre naturel. Ce n'est pas le plus haut dans l'ordre naturel, ce n'est pas le Dieu, justement, des philosophes. Voilà. Il y a un événement. Alors, c'est une pensée de l'événement qui est en jeu ici. Ensuite, ce qui est très intéressant, c'est que on pourrait voir une reprise de ce thème-là chez un très très grand philosophe, Kierkegaard, le grand philosophe danois, où il parle des différents stades, où il parle du stade esthétique, du stade éthique et du stade religieux. Et on voit que dans les trois cas, c'est le monde entier qui est englobé. On peut tout voir du point de vue esthétique, les corps. On peut tout voir du point de vue strictement éthique ou intellectuel. Et on peut tout voir du côté, à partir du religieux. Les mêmes événements. Et ce n'est pas une question d'extension, parce qu'on peut tout réduire à la dimension des corps, on peut tout réduire, tout ramener à l'esprit, et on peut tout voir dans la charité. Donc ce n'est pas qu'il y a des parties de l'être qui sont récusées, enfin, peut-être... L'inférieur ne voit pas le supérieur, mais peut-être que le supérieur enveloppe l'inférieur. C'est ça ce qu'il faut voir. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, on peut avoir un rapport aux femmes, et à toutes les femmes, qui est celui d'un Don Juan ou d'un Casanova. Et on reste dans l'ordre esthétique jusqu'à la fin de sa vie. Et il faut, d'une certaine façon, dire à Kierkegaard, un événement pour qu'on passe à l'ordre éthique. Et de la même façon, quand on entre dans l'ordre religieux, par exemple, le religieux va troubler l'éthique. Il prend l'exemple du sacrifice d'Abraham. Normalement, on ne tue pas ses enfants. Hein, voilà, un père ne tue pas ses enfants. Et puis voilà, quelqu'un qui entend la parole, va, prends celui que tu aimes et tu vas me l'offrir en holocauste sur le mont Moria. Là, tout d'un coup, il dit, alors, il prend l'exemple d'un père de famille qui irait voir le confesseur et qui lui dirait, ben voilà, écoutez, mon père, je ne sais pas en fait si c'est un péché que je vais vous décrire, mais Dieu m'a parlé, il m'a demandé de prendre mon fils et de le tuer. Voilà. Aucun ange n'a arrêté ma main cette fois. Bon, qu'est-ce qui se passe? Et donc, il dit, l'ordre religieux est comme au-delà de l'ordre rationnel habituel. Bon, ben, c'est très problématique de penser comme ça. J'admire Kierkegaard, mais il y a quand même un problème. Et là, est-ce que Pascal nous dit ça d'une certaine façon? L'ordre de la charité est irrationnel. Il n'a plus rien à voir avec l'ordre de l'intelligence, l'ordre de l'esprit. Et est-ce que l'intelligence est complètement en dehors d'une considération des corps et de leur beauté, etc. Je ne pense pas qu'il dise ça. Mais il fait état d'un monde qui, désormais, n'a plus la belle harmonie d'une synthèse christiano-platonicienne, voire même aristotélico-chrétienne, voyez, où d'une certaine façon, les choses s'ordonnent naturellement, où elles sont prises dans un cosmos, dans un grand tout, où l'une s'articule à l'autre, où la chair s'articule à l'esprit, qui s'articule à Dieu. Non, il y a une autre manière de voir, non seulement que nous impose, on pourrait dire, une dualité qui advient avec la science nouvelle, c'est-à-dire, il y a un monde matériel, de l'étendue chez Descartes, et puis de l'autre côté, le monde de l'esprit, le monde de la pensée. Et il y a Il y a une union entre les deux, mais qui ne va pas de soi. Il aurait pu avoir un monde sans pensée. Le penser est autre chose, d'une autre nature, radicalement d'une autre nature. Et là, en plus, voilà, en plus, l'irruption de la charité, c'est-à-dire le fait que la nature est comme hors d'elle-même et qu'il y a quelque chose qui vient, on pourrait dire, déchirer la trame du monde.
Vous écoutez Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos. Avec notre question aujourd'hui, n'y a-t-il aucune commune mesure entre la chair, l'esprit et la charité ? Fabrice Hadjadj, on pourrait dire qu'entre la chair et l'esprit, il n'y a pas de, commune mesure, on peut être soit dans l'un, soit dans l'autre. Mais est-ce que la charité, en fait, il n'y a pas de pure charité, elle doit s'exercer, elle doit se traduire dans des actes. Et donc, est-ce que forcément la charité n'informe pas soit le domaine de l'esprit, soit le domaine de la chair ? Et donc, est-ce que forcément la charité ne les assume pas ?
Bon, moi, je pense que ce texte ne dit pas tout. Alors là encore, hein, vous voyez, on est face à un fragment, hein, des notes de Pascal. On voit bien d'ailleurs c'est que ça a le caractère d'une sorte de prise de notes. Ce qui donne la force, par exemple, c'est des parallélismes systématiques, la répétition des termes, et puis parfois... Les phrases très brèves, comme ça, qui tombent comme des couperets après telle ou telle énumération. Donc, ce qui est génial dans les pensées de Pascal, c'est ce qu'elle nous donne à penser, en fait. En fait, il n'y a pas de pensée de Pascal. Il n'a pas écrit les pensées, ce sont les compilateurs qui ont donné ce nom à des fragments. Mais il y a notre pensée face à ces fragments, qui sont comme appelés à les compléter. Et là, il y a ce que dit Pascal, il y a ce qu'il ne dit pas. Il dit bien que certains peuvent être simplement dans le corps et ne pas du tout imaginer les grandeurs d'esprit, de l'esprit ou de la charité, etc. Mais il ne dit pas que tous, d'une part. Donc, c'est pas dire qu'il n'y a absolument aucune communication. Et d'autre part, il n'essaye pas de montrer comment le degré supérieur enveloppe le degré inférieur. C'est-à-dire qu'on pourrait penser, comme Socrate, par exemple, enfin, comme le montre l'exemple de Socrate, que celui qui a, comme le dit Hölderlin dans ce magnifique poème Socrate et Alcibiade, hein, celui qui a pensé le plus profond aime ce qu'il y a de plus vivant. Et de fait, Socrate, le sage, est sensible à la beauté des corps. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il faudrait essayer de comprendre. Est-ce que... il faut être sensible à la beauté des corps pour s'élever en philosophie, c'est pas exactement ça, parce qu'il peut y avoir un rapport au corps, à la beauté du corps, qui nous enferme dans le monde des corps. Mais Socrate, en devenant philosophe, est devenu encore plus sensible à la beauté des corps. Voilà. Mais d'une sensibilité qui n'est pas celle de l'enfermement, non, parce qu'il voit comment les corps participent à la beauté spirituelle. Donc je pense qu'on pourrait le voir déjà dans cet ordre-là, où l'esprit enveloppe le corps. Et bien sûr, la charité comme don surnaturel n'est pas en concurrence avec la nature. Donc elle n'est pas en train de dire il faut qu'il y ait moins d'esprit ou moins de chair. Pour qu'il y ait... Faites-moi de la place. Elle n'a pas besoin de place. Elle est la source de toute chose. Elle est le don de Dieu, qui est le don du Créateur déjà, qui a donné leur place aux choses. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut chasser la chair et chasser l'esprit, chasser... la force ou la beauté physique et chasser l'intelligence et la science pour faire de la place à la charité, qui serait dès lors le lieu des faibles, des cacochimes, des malportants, ce que pensait Nietzsche, hein, vous voyez, une sorte de compensation pour ceux qui n'ont ni corps ni esprit, d'une certaine façon. Non, c'est pas ça. Elle est au-dessus, elle assume, elle enveloppe, et elle vient transfigurer, porter dans un autre ordre. Mais ce que veut tenir absolument Pascal, et qui est digne d'un janséniste, on pourrait dire, mais en réalité d'un augustinien, mais en réalité simplement d'un lecteur de la Bible, c'est que la grâce est un don de Dieu, c'est que la charité est un don de Dieu. Elle n'est pas le résultat d'une performance physique, ou d'une performance intellectuelle. Et ça, c'est très important. Et là encore, on voit, la brisure de l'apologétique. Parce qu'on avait dit, hein, cette thèse que je soutiens, c'est-à-dire que Pascal produit une apologie de la religion chrétienne, écrit des dissertations, puis tout d'un coup, ça ne lui convient pas, il les coupe en morceaux, il faut faire autre chose. Bien, c'est de dire, l'apologétique, c'est quoi? C'est de dire, regardez, je vais vous montrer combien la religion chrétienne est intelligente. Et je vais faire passer ce qui est de l'ordre de la charité dans l'ordre de l'esprit. Et je vais dire, ben voilà, vous voyez, comme c'est spirituel, comme c'est... voilà. Et au bout de ça, vous devriez vous convertir. Ben non. La conversion ne vient pas au bout d'une dissertation. Il se peut que la dissertation chasse des obstacles à une grâce qui était déjà là. Et alors à ce moment-là, on pourrait dire « Ah, j'ai lu cette chose, compris, je me suis converti. » Mais en même temps, c'est d'abord la grâce. C'est un don de Dieu.
Frère Richard Judge, est-ce que par rapport au texte que nous voyions la semaine dernière sur le divertissement, on pourrait se demander si l'événement de la charité, donc si un acte de vraie charité pourrait être un événement suffisant pour nous faire sortir du divertissement?
C'est même exactement cela, hein, je pense. Hein. De toute façon, la seule chose qui ne soit pas divertissement, c'est la charité, pour Pascal, on pourrait dire. Tout le reste n'est que diversion, puisque la seule vraie vie est la seule manière de regarder notre misère en face, pas pour y sombrer hein, dans la mélancolie, ou le remords, le désespoir, mais pour y découvrir la matière d'une miséricorde et à notre tour, notre manière de faire miséricorde à notre tour, c'est la grâce, c'est la charité. Donc, oui, c'est exactement cela, c'est-à-dire qu'il n'y a que la charité pour nous sortir du divertissement. Et inversement, on pourrait dire que ce texte sur les trois ordres prolonge la pensée sur le divertissement. C'est-à-dire que les grandeurs physiques peuvent être une diversion complète et peuvent occuper toute une vie. Hein, je veux dire, être fort, assurer la gestion des affaires du monde, tout cela prend une vie et c'est très sérieux. Mais ça peut être une diversion par rapport à un autre monde qui est celui de l'esprit, où la science, l'étude, non pas de l'ordre politique, mais de l'ordre de la nature, cette manière de ressaisir le monde en soi à partir des concepts, des raisonnements. Et puis, on peut inclure ici l'art, hein. Je veux dire, c'est pas seulement l'intelligence ici, c'est les grandes œuvres d'art qui résument le monde, qui peuvent rassembler toute la comédie humaine. Bien voilà, ça prend toute une vie. Mais ça peut être aussi, voilà, un divertissement. Parce que si ces mondes-là sont des mondes riches en eux-mêmes, et même... comment dire, parce que c'est ça ce que essaye de nous montrer Pascal, des mondes susceptibles d'un accroissement sans fin, eh bien ils peuvent aussi nous enfermer et nous divertir de ce qui est le plus important, c'est-à-dire la grâce. Et je pense que, en fait, c'est ça que veut montrer Pascal, parce que dans ce texte, on voit apparaître plusieurs fois le mot « infini », non seulement la distance infinie des corps aux esprits, puis plus infinie encore des esprits à la charité, parce que les corps et les esprits sont dans le même ordre, ils sont dans le même ordre naturel malgré tout. Donc il peut y avoir une distance, mais quand on passe du naturel au surnaturel, voilà, là il y a un abîme. Il faudrait voir d'ailleurs dans quelle mesure c'est un abîme et dans quelle mesure ça ne l'est pas, parce que malgré tout, celui qui donne la grâce surnaturelle, c'est l'auteur de la nature. Il faudrait voir jusqu'où on est dans cette logique d'incommunicabilité chez Pascal. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de forcé? Mais surtout, ce que nous dit Pascal, c'est que dans l'ordre des corps, enfin, c'est qu'il y a ici trois infinis, en fait. Dans l'ordre des corps, il y a un infini possible. On peut sans fin accumuler des richesses, accumuler du pouvoir, accumuler de la grandeur, des honneurs, etc. On peut, dans l'ordre de l'esprit, bien sûr à plus forte raison, réfléchir, toujours avancer sans fin dans un processus de connaissance, d'intelligence du monde, Et c'est ce que fera la science, et c'est ce que fait la philosophie, et c'est ce que fait... Voilà. Et donc, on peut être pris complètement dans une vie... Et vous voyez, c'est ça la misère. La misère, c'est pas qu'on n'est pas riche, c'est qu'on est riche, c'est qu'on est... On a un chemin infini, ça. Et c'est pas parce que, tout d'un coup, quelque chose est limité qu'on va se tourner vers Dieu. Non, il y a un illimité du corps, il y a un illimité de l'esprit. Et cependant, voilà, c'est pas la charité. C'est, et face à la charité, comme dit Paul, c'est rien, c'est comme rien.
Merci Fabrice. C'était Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos avec Fabrice Hadjadj, Blaise Pascal, Galdric Drapé et Michael Durmeyer à la technique. Retrouvez-nous tous les lundis à 18h30, les samedis à 10h30 et bien sûr en podcast sur les sites de Radio Notre-Dame et de Philanthropos. À très bientôt et n'oubliez pas que vous êtes intelligents.